Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Bon réveil ce mardi matin. Merci d'être avec nous. Nous sommes le 10 mai et aujourd'hui Bono fête ses 62 ans.
Bono, leader emblématique du groupe U2, et on vous en parlait ici même hier, il était sur le quai d'une station de métro à Kiev dimanche pour un concert surprise.
Oui, en compagnie du guitariste The Age, ils ont interprété des grands classiques de U2 en hommage au combat pour la liberté des Ukrainiens.
Et on sera justement en Ukraine ce matin avec un document exceptionnel à 6h10 et dont on va vous dévoiler un extrait dans le journal de 5h. Notre grand reporter Nicolas Tonev a pu joindre le maire adjoint de Mariupol, Sergei Orlov, qui va nous raconter de l'intérieur la terrible bataille qui s'y livre actuellement. Il y a la résistance des derniers soldats ukrainiens retranchés dans le complexe sidérurgique d'Azovstal, mais aussi la découverte de charniers tout autour de la ville, de cette ville stratégique, tenue désormais à 80% par l'armée de Vladimir Poutine, la même qui a paradé hier sur la place Rouge à Moscou pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Mariupol, ville martyre, un entretien à ne pas manquer, rendez-vous donc à 6h10.
On va revenir en France avec vous, Omblin, et ce petit bout de papier qu'on appose depuis 40 ans sur les pare-brises de nos voitures, la vignette verte pourrait disparaître.
Oui, c'est en tout cas ce que souhaite la Fédération des assureurs. Une bonne nouvelle sans doute pour vous qui devez chaque année vous équiper d'une pince à épiler pour sortir l'ancien petit papier carré afin de mettre
ça
le nouveau dans le passé.
Ouais,
c'est totalement du vécu et c'est chaque année la même histoire. Si on n'oublie pas de le changer.
Oui, une mauvaise nouvelle en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle pour les fraudeurs.
Oui, parce que la vignette verte serait entièrement remplacée par un fichier dématérialisé plus difficilement falsifiable que deux bouts de papier. Ce nouveau dispositif est déjà consultable par les forces de l'ordre pendant les contrôles. On en parle à 5h45 avec Florence Lustmann, la présidente de France Assureurs.
Et votre partition pour conclure.
Un groupe phare des années 80 dont le nom vient de la chanson Imagine de John Lennon. La partition d'Imagination à 6h20, son chanteur Legion sera en concert ce soir à l'Olympia.
Et on débute avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien. Bonjour Omblin.
Bonjour.
Encore du beau temps.
Eh oui, alors si vous avez aimé la journée d'hier, vous allez adorer la journée d'aujourd'hui puisqu'on prend les mêmes, on recommence exactement le même principe, sauf qu'aujourd'hui sera la journée la plus chaude de la semaine. Les températures augmentent encore aujourd'hui. Déjà qu'hier, il faisait très doux. Alors ce matin, comme hier, on a sur les côtes de la Manche et sur le Languedoc des nuages bas, quelques bandes brouillard, soyez prudents. Comme hier, des orages éclatent en fin de journée sur les montagnes et notamment sur les Alpes et la Corse. Et puis tout au long de la journée, alors là, c'est la seule différence avec hier, c'est que sur la moitié nord, sur toutes les régions au nord de la Loire, on aura un petit peu plus de passages nuageux. Mais ce sont des cumulus de beau temps, donc des passages, des nuages d'altitude qui viendront pas masquer le soleil. Ce matin, on a plus de 10 degrés partout. Cet après-midi, 15 à 17 en bord de Manche, là, ça baisse. Et 24 à 30 degrés partout ailleurs.
Merci beaucoup.
Merci public.
Anissa Haddadi. Et à tout de suite. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce mardi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz à Berlin, sous la porte de Brandebourg, aux couleurs de l'Ukraine. Image symbolique du couple franco-allemand qui a affirmé hier soir son plein soutien à Kiev en réponse au défilé militaire de Moscou. Je vous en parlais dans le sommaire, un document exceptionnel ce matin sur Europe 1. Nous avons pu joindre le maire adjoint de Mariupol en Ukraine. Il accuse le Kremlin de déporter des Ukrainiens en Russie. Et puis le foot business avec un potentiel grain de sable entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. On vous explique tout à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal qui vous est présenté par Johan Tritz. Bonjour Johan.
Bonjour à tous. Deux dirigeants, un seul message, soutenir l'Ukraine. Image forte hier soir d'Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand devant la porte de Brandebourg aux couleurs bleues et jaunes du drapeau ukrainien. Jacques Serret, vous êtes dans la capitale allemande pour Europe 1. Cette photo du couple, c'est la réponse envoyée à Vladimir Poutine après son discours lors du défilé militaire du 9 mai commémorant le jour de la victoire.
Oui, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ensemble devant la porte de Brandebourg, éclairée hier soir aux couleurs du drapeau ukrainien, une image symbolique en opposition au défilé des chars russes sur la place rouge de Moscou le matin même, alors que pour Emmanuel Macron, il s'agissait du premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection.
Il était évident pour moi que ce premier voyage viserait à marquer la force, l'importance de l'amitié franco-allemande. Et je souhaite que l'amitié qui unit nos deux pays et qui nous unit puisse nous permettre dans les semaines, les mois, les années qui viennent de continuer de construire de grandes choses.
Faire bloc, le chancelier allemand approuve et soutient la proposition du président français de créer une communauté politique européenne qui pourrait accueillir l'Ukraine.
Je tiens à dire qu'il s'agit d'une proposition très intéressante pour faire face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés.
Et pour mieux démontrer l'unité du couple franco-allemand, les deux dirigeants ont annoncé la tenue au mois de juillet d'un conseil des ministres franco-allemands. Mais avec quel Premier ministre côté français? Sur ce point, Emmanuel Macron entretient le mystère tout en affirmant savoir qui sera le prochain locataire de Matignon.
Jacques Serret à Berlin pour Europe 1.
Et à Moscou, on attendait hier un défilé en grande pompe. Il a été plutôt classique avec une parade aérienne annulée.
Oui, les raisons annoncées, les conditions météorologiques qui avaient l'air pourtant bonnes, ce qui n'a pas empêché Vladimir Poutine de prononcer son discours. « Vous vous battez pour la patrie », a-t-il lancé à son armée. Il a aussi mis en garde l'Occident contre une guerre globale.
En tout cas, cet événement n'a pas plu en Ukraine.
Oui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a promis que son pays ne laisserait pas Moscou s'approprier la victoire sur le nazisme. En pleine visite de Charles Michel, le président du Conseil européen à Odessa, les bombardements ont fait rage dans cette même ville.
Et plus à l'est, à Mariupol, cette fois, les séparatistes russes ont défilé dans la ville hier, toujours dans une situation critique.
Oui, les derniers résistants sont toujours retranchés dans la Syrie d'Azovstal. Le maire adjoint de la cité portuaire qui nous a accordé une interview exceptionnel. Sergueï Orlov accuse Moscou d'avoir envoyé des Ukrainiens en Russie contre leur gré.
Il n'y a pas longtemps, on a eu cette information que les Russes ont déporté 40 000 habitants de Mariupol à travers la Russie. C'est une déportation. Ils les ont obligés à rejoindre la Russie sans leur donner le choix. Et l'on parle là d'adultes et d'enfants envoyés là-bas. Il y en a qui ont été envoyés en Russie centrale et d'autres jusque dans l'extrême-orient russe. On a eu des nouvelles il y a peu de temps de 300 personnes envoyées en extrême-orient qui demandent de l'aide pour pouvoir revenir à Mariupol. Beaucoup d'entre eux n'ont plus de pièces d'identité. La Russie fait un génocide en diluant et en dispersant la population comme cela à travers les endroits isolés de Russie.
Entretien réalisé par Nicolas Tonev pour Europe 1. À la demande de Kiev, une session extraordinaire de l'ONU se tiendra ce jeudi sur la détérioration de la situation des droits humains dans le pays en guerre. Dans un discours, le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, estime même que les généraux russes devraient être traduits devant la cour martiale.
On reste justement au Royaume-Uni, car c'est un jour important aujourd'hui, avec l'annuel discours de la reine devant le Parlement, mais ce sera sans la reine Elisabeth II.
Oui, une première depuis près de 60 ans. Son état de santé ne lui permet pas de se déplacer. Elle sera remplacée par son fils, le prince Charles, qui lira le discours à sa place. Un moment important, au moment où certains pays comme l'Irlande du Nord ou l'Écosse penchent de plus en plus en faveur de l'indépendance.
Vous l'avez sûrement remarqué, si vous avez fait récemment des courses dans votre supermarché préféré, il manque de nombreux produits dans les rayons.
Oui, je l'avais remarqué aussi, Julien, notre correspondant dans le nord de la France, Lionel Gougelot, est d'ailleurs allé constater dans un magasin de la banlieue lilloise.
Le rayon des huiles de tournesol aux trois quarts vide, des approvisionnements perturbés par la guerre en Ukraine et des consommateurs qui stockent, c'est un vrai casse-tête quotidien pour Thomas Pocher, le patron de ce centre Leclerc.
En fait, on est bien livré régulièrement sur les différentes gammes de produits. On a de la marque de distributeur, des marques premier prix et des marques nationales. Pour autant, c'est un rayon qu'on a du mal à tenir parce que les gens vont avoir tendance à se jeter dessus. Je vois que j'ai une rêve de marque nationale qui est en rupture. Ça nous paraît d'autant plus dingue que c'est trois fois le prix que c'était il y a quelques mois, quoi.
Même phénomène pour de nombreux condiments à base d'huile comme la moutarde.
C'est des rayons qui se vident. En plus, là, on a une frénésie d'achat des consommateurs qui se disent « aïe, 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 il ne va plus y en avoir, il n'y en aura plus ». Donc, le prix a bougé et en plus, les gens se ruent dessus. On va aller voir le rayon de la volaille et là, c'est un peu différent.
La volaille, une filière déstabilisée, elle, par la grippe aviaire et des retards de production dans les élevages.
Et on se retrouve aujourd'hui avec des difficultés à tenir nos rayons. En plus, c'est un produit qui a plutôt le vent en poupe, qui n'était pas très cher et dont le prix va se renforcer aussi. et qui est aujourd'hui un peu pénurique. J'ai pas l'habitude de présenter des rayons comme ça le lundi. Ça fait 25 ans que je travaille dans la distribution, on n'a jamais eu de phénomène aussi multiple.
Alors face à ce marché perturbé, tous les jours le patron part à la recherche de nouveaux fournisseurs, des filières locales par exemple, tout en essayant de maintenir des prix abordables. À Templeuve en Pévèle, Lionel Gougelot, Europe 1.
Alors pour l'heure, les glaces semblent épargnées par les pénuries, et c'est tant mieux avec les fortes chaleurs et le grand soleil que nous a annoncé à l'instant Anissa Haddadi. Pour autant, ce grand soleil, il ne faut pas forcément s'en réjouir.
Oui, qu'un rapport de l'ONU qui vient de sortir est alarmant. Il y aurait 50% de chances que le réchauffement climatique dépasse le seuil de 1,5 degré pendant l'une des 5 prochaines années. Un seuil néfaste pour la planète tout entière, explique l'ONU.
Elle aussi continue d'augmenter. Elle, c'est la cote de Kylian Mbappé sur le marché des transferts. Le joueur du PSG serait en discussion avancée avec le Real Madrid.
Il était d'ailleurs hier dans la capitale espagnole, même si un rapprochement est acté. La signature du joueur en fin de contrat, elle l'est beaucoup moins, car des divergences par rapport au droit à l'image pourraient tout faire capoter. Jean-François Pérez.
Oui, et Kylian Mbappé est prêt à pousser très loin son avantage, lui qui est sans doute à l'heure actuelle le joueur le plus désiré du monde. Fin mars, avec l'équipe de France, il avait refusé de participer à des opérations commerciales, jugeant que certains sponsors des Bleus ne correspondaient pas à ses valeurs. Le Parisien, qui reverse ses droits d'image à des associations, a entamé un bras de fer inédit avec le président de la 3F. Noël Le Graët joue très gros, comme nous le précise Vincent Chaudel, économiste du sport.
S'il accepte juste de ne pas donner de prime à Mbappé, c'est aussi d'évaluer la relation que les sponsors peuvent avoir avec la Fédération française de football. Parce que chaque sponsor, bien évidemment, souhaite avoir des joueurs et si possible les stars de l'équipe.
Et ces fameux sponsors de l'équipe de France représentent environ 40% du budget de la fédération. Ils alimentent notamment le football amateur. Mbappé en pointe chez les Bleus donc, mais aussi en club. Là encore, le droit à l'image est au cœur des négociations sur son avenir. Le PSG serait prêt à lui céder 100% des contrats publicitaires. Le Real souhaiterait faire moitié-moitié, comme avec Cristiano Ronaldo à l'époque. L'enjeu est énorme. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros qui pourraient faire pencher la balance.
Les précisions apportées par Jean-François Pérez pour Europe 1. Est-ce que vous aviez 195 millions de dollars sur votre compte, Julien?
Non, je ne m'appelle pas Kylian Mbappé encore, mais ça pourrait arriver un jour.
Si vous les aviez, vous auriez pu vous acheter le célèbre portrait de Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol. C'est devenu tout simplement l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques.
Oui, et c'était cette nuit à New York, je crois. Merci beaucoup, Johan Tritz, pour ce journal.
5h09, on passe aux courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly et mon pari gagnant sera le 903 Bobic. Récent deuxième pour sa rentrée le 6 avril sur cette piste en sable fibré de Chantilly, il devrait pouvoir cette fois, à la faveur de quelques progrès attendus par son entourage, remporter sa première victoire. En effet, facile à monter, ce pur sang âgé de 4 ans qui aime aller de l'avant ne va pas s'embarrasser de tactiques qui même me suivent. Et il a assurément les moyens ici de le faire de bout en bout. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'hippodrome de Chantilly, réunion 1 dans la 9e course, le numéro 3, Bobic.
Merci beaucoup Thierry Léger et on vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Et on ouvre les journaux du matin à 5h10, oui, parce que c'est le pressing avec Martin Lange.
Bonjour Martin.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Bonjour.
Bon, et on commence ce pressing comme chaque matin avec les unes de vos journaux, celles que vous découvrirez tout à l'heure chez votre kiosquier. Macron plaide pour une Europe à plusieurs vitesses, titre Le Figaro, le lendemain du discours à Strasbourg du chef de l'État, où il a exposé sa vision d'une Europe, on va dire, à géométrie variable. Macron soutient la révision des traités européens, ajoute en une Les Échos, en ligne de mire, l'abandon du vote à l'unanimité dans certains domaines. Le Parisien aujourd'hui en France consacre sa une au burkini. Pourquoi il refait surface, titre Le Quotidien qui a enquêté à Grenoble, ville où le conseil municipal se prononcera lundi sur l'autorisation du maillot de bain islamique. Et puis on termine avec Libération. Syrie, Ukraine, les confessions d'un mercenaire de Poutine, peut-on lire en une du journal qui a rencontré un certain Marat Gabidouline, un ex-combattant du groupe Wagner qui livre un témoignage inédit sur les guerres du Kremlin. Je vous conseille de lire cet article et Libération ce matin, c'est assez passionnant. Voilà pour les Unes. Omblin, on commence avec vous. Quel article avez-vous choisi ?
Oui, c'est une nouvelle expérimentation lancée depuis le début du mois pour tenter de réduire le gaspillage de papier, ce papier qui envahit les boîtes aux lettres, des prospectus, flyers et autres catalogues. C'est le Parisien aujourd'hui en France qui en parle ce matin. Alors vous êtes du genre à les laisser s'empiler jusqu'à ce que votre boîte déborde ou plutôt à classer les promos par date en vue de votre prochaine session de course.
Moi, je jette tout d'un coup.
Supermarché.
Je regarde
tout
même
d'un
pas.
Coup.
Ça m'agace.
Je fais le tri le dimanche soir.
Ah, ouais. Ah, vous êtes très routinier, dites-moi. Près d'un million de tonnes de prospectus sont distribués chaque année en France. Ça fait 30 kilos par an, par foyer, 30 kilos de prospectus dans vos boîtes aux lettres, messieurs, dames. C'est quand même triste d'imaginer que ces 30 kilos de papier arrivent directement dans la poubelle tous les dimanches soirs chez Martin Lange. Il existe déjà le fameux autocollant Stop Pub, hein, mais à l'impact, il faut bien le dire, encore trop limité. D'abord parce qu'il n'est pas forcément respecté par les distributeurs de brochures. Et puis, on ne fait pas forcément la démarche d'aller le chercher pour le coller près de son nom. L'idée est donc d'inverser le système. Si la non-distribution de prospectus devenait la norme avec un autocollant WePub, l'objectif est donc simplement de cibler les personnes qui demandent à recevoir des promos, des catalogues de jouets à Noël, des catalogues d'hypermarché, voilà, dans sa boîte aux lettres. Car finalement, on n'a pas trouvé mieux que le prospectus pour annoncer des ristournes et la sortie de nouveaux produits, c'est vrai, pour faire venir les consommateurs dans les magasins également. Hein, donc il n'est pas totalement has-been ce prospectus. Et vous allez me dire, la solution, bah, c'est le numérique, faire de la pub par SMS, par mail, via les réseaux sociaux.
Ah non,
c'est très polluant aussi en plus.
Effectivement.
Et ouais, puis on a suffisamment d'appels en tout genre.
Oui, et puis tous les Français ne sont pas forcément connectés. À Amsterdam, aux Pays-Bas, 19% des boîtes aux lettres sont dotées d'un autocollant WePub. Et d'après la ville, cela a permis d'économiser 33 kilos de déchets par foyer et par an. En France, l'expérimentation va être réalisée dans 15 agglomérations et notamment à Bordeaux. Cela va durer jusqu'à l'été 2025. Et si les résultats sont concluants, eh bien le WePub pourrait être généralisé à toute la France, c'est-à-dire dans le Parisien aujourd'hui en France.
Il y a une autre solution qui nous a été soufflée par notre réalisateur Fabrice Lafitte.
Ah
c'est
bon
celle d'électrifier votre boîte aux lettres. Comme
donner,
ça,
donner des coups de jus,
voilà,
au distributeur.
Voilà. Sympathique. Pas forcément du 220 volts, hein, parce que sinon vous c'est terminez au tribunal, mais voilà, un petit ampérage un peu.
Voilà, bah, y a plusieurs possibilités, soit un autocollant, soit un coup de jus.
Voilà.
Vous choisissez.
Bon, à vous de choisir, effectivement. Merci Omblin, Martin, c'est à vous.
Oui, on est très, très écolo ce matin sur Europe 1, dans la série. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je voudrais Elon Musk, le patron de Tesla, une société spécialisée dans les voitures électriques et qui vise, c'est écrit noir sur blanc sur son site internet, à l'éradication maximale des émissions de gaz à effet de serre. Un projet tout à fait louable, sauf que dans les faits, le patron ne s'embarrasse pas trop des émissions de gaz à effet de serre. Ce week-end, il a pris son jet privé pour un vol de 9 minutes seulement.
9 minutes.
C'est pas très long, hein. Un trajet entre San Jose et San Francisco en Californie. 83 km seulement et à peine 50 minutes en voiture. Autant dire qu'avec le temps d'embarquer et de débarquer, l'homme le plus riche du monde a dû mettre environ le même temps à bord de son aéronef.
Alors on est bien d'accord, hein, ce vol n'est pas vraiment nécessaire, mais qui a dénoncé Elon Musk ?
Eh bien c'est un internaute, il s'appelle Jack Sweeney, il a 19 ans et il s'est fait une spécialité sur le réseau social, hein, suivre les allers-retours aériens de l'homme le plus riche du monde. Il a déjà épinglé plusieurs fois pour de très courts trajets.
Ah, il le surveille.
Il le surveille, exactement, ce qui a d'ailleurs eu le don d'agacer le PDG de SpaceX. Sweeney devrait d'ailleurs se méfier, hein, puisqu'on le rappelle, Musk vient de mettre la main sur Twitter, son outil de travail. Toujours est-il que, selon les spécialistes, hein, la petite virée en avion de Musk ce week-end aurait produit l'équivalent de 0,02 tonnes de CO2. Alors, ça ne paraît pas énorme comme ça, hein, mais le même trajet en Tesla en aurait produit zéro. Mmh. Et puis, c'est surtout lorsque l'on cumule, hein, tous ces trajets inutiles que ça coûte très cher à la planète. On se souvient notamment, hein, des 400 jets privés mobilisés à la COP26 à Glasgow. Depuis ce week-end, Elon Musk, le patron le plus éco-friendly du monde, est donc devenu la risée des réseaux sociaux. Elon Musk se fait prendre pour un vol de 9 minutes en jet privé. C'est à retrouver sur le site de Slate.
Merci Martin. On poursuit ce pressing écolo avec cet article que j'ai déniché dans Vélo Magazine et que vous pouvez lire gratuitement sur le site de l'équipe. Article passionnant sur le rôle méconnu mais précieux des vélos pendant la Seconde Guerre mondiale. On a commémoré dimanche le 77e anniversaire de la victoire contre les nazis, victoire qui ne s'est pas jouée uniquement à l'aide d'avions, de chars d'assaut ou de sous-marins. Non, les biclous ont aussi été de la partie. La petite reine a même été au cœur de l'une des journées les plus fameuses du conflit, le débarquement du 6 juin 1944. Une partie des soldats britanniques et canadiens qui ont jailli des péniches prenant d'assaut les plages normandes poussaient en effet devant eux des vélos, des modèles airborne paratroopers conçus spécifiquement pour le combat. Les valeureux militaires qui les utilisaient pouvaient attacher leurs fusils sur le cadre et s'en servir pour viser. Ils avaient aussi l'avantage d'être pliables pour être transportés plus facilement, ce qui n'était toutefois pas une mince affaire vu le poids de l'engin, une dizaine de kilos qui venait en plus de tout le reste, c'est-à-dire le paquetage, le casque, la mitraillette et les munitions, soit 25 à 30 kilos supplémentaires. Certains soldats se sont d'ailleurs noyés en tombant à l'eau parce qu'ils étaient beaucoup trop lourds et n'arrivaient pas à se débarrasser à temps de tout leur équipement. Ajoutez à cela les nombreuses crevaisons à cause d'éclats d'obus et de verre qui jonchaient les plages et les routes normandes ce jour-là, et vous comprenez que l'utilisation de ces vélos, le D-Day, n'était pas forcément l'idée du siècle. Pour autant, les Airborne, produits à 60 000 exemplaires tout de même par une société anglaise, présentaient un double avantage par rapport aux jeeps, aux tanks et aux camions de transport de troupes. Ils permettaient de parcourir de longues distances tout en étant silencieux, ce qui est pratique pour surprendre l'ennemi et évoluer derrière les lignes ennemies justement. Et si bien que des vélos pendant la Seconde Guerre mondiale, on en trouve dans quasiment toutes les armées, impliquées ou non dans ce conflit. Certains pays possédaient des bataillons 100% dédiés aux deux roues, c'est le cas de la Suède par exemple, avec ses 6 régiments d'infanterie à vélo, ou encore de la Wehrmacht, dont une petite partie des soldats ont utilisé leurs bicyclettes pour envahir la Norvège ou encore la Pologne. Mais le pays qui a utilisé le vélo à des fins militaires, qui a le plus utilisé le vélo, sans conteste le Japon, et ce, en raison d'une pénurie d'essence, notamment dans les années qui ont précédé le déclenchement du conflit mondial. En 1937, lors de l'invasion de la Chine, l'armée de l'empereur Hirohito a fait appel à près de 50 000 soldats en deux roues. Rebelote, 4 ans plus tard, lors de la campagne victorieuse de Malaisie, les troupes nippones à vélo ont réussi à prendre par surprise les forces alliées et à couper leur retraite grâce à leur vitesse de déplacement. Allez, une petite question pour terminer, Martin Omblin. À votre avis, quand est-ce que le dernier régiment à vélo au monde a été dissous?
Est-ce qu'il y a eu un régiment à vélo vraiment
Mais il y avait des régiments.
Il n'y a pas très longtemps, à mon avis. Attendez votre question. 10 ans.
C'était une vingtaine d'années. C'était le 31 décembre 2002.
Ah oui,
l'armée suisse mettait ainsi fin à près d'un siècle d'utilisation de la bicyclette par ses soldats.
Incroyable.
Il faut en vouloir pour faire du vélo en Suisse. Hein.
Si je peux me permettre, allez lire l'histoire de Gino Bartali, un ancien vainqueur du Tour de France qui a sauvé des Juifs grâce à son vélo pendant la Seconde Guerre mondiale. Assez passionnant.
Eh bien,
c'est noté.
Airborne Paratrooper, voilà. C'est le modèle de ce vélo de la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup Julien, merci Martin pour ce pressing et on se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Soyez les bienvenus, il est 5h19 sur Europe 1. Les principaux titres de ce mardi, le journal permanent Johan Tritz.
L'Europe a envoyé un message à la Russie. Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont ensemble hier à Berlin pour soutenir l'Ukraine face au défilé à Moscou. Mais pas question encore d'une adhésion du pays en guerre à l'Union Européenne. Pas avant une décennie, a déclaré le président de la République en Allemagne. Il souhaite plutôt créer une communauté politique européenne susceptible d'accueillir Kiev. Emmanuel Macron, qui connaîtrait le nom de son premier ministre, un dîner est prévu jeudi soir à Matignon. En politique, toujours avec la fin du feuilleton Tahabouaf, il ne se présentera finalement pas sous l'étiquette NUP à Vénissieux aux législatives dans la banlieue lyonnaise. Il annonçait dans un communiqué dans la nuit. François Fillon condamné à 1 an de prison ferme en appel. Il a été reconnu coupable par la cour d'appel de Paris de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux, affaire qui avait éclaté en 2017. 195 millions de dollars, c'est le prix du portrait de Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol, tout simplement la plus chère œuvre d'art vendue aux enchères publiques.
Europe 1. Vous avez la parole chaque matin sur Europe 1. Vous les connaissez, ces initiatives en France, et elles nous emmènent aujourd'hui en Occitanie.
Bonjour Karen Maya-Lévy.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes la cofondatrice et présidente de Keep It. C'est une jeune marque d'électroménager durable, réparable et fabriquée en France. Alors pour l'heure, vous n'avez qu'un seul produit au catalogue, une bouilloire multifonction, on va y revenir. Mais vous planchez activement sur d'autres produits, notamment un lave-linge. Expliquez-nous.
Exactement. Aujourd'hui, on travaille sur deux autres produits. Un petit électroménager qui sera un grille-pain multifonction durable et réparable et un lave-linge. Alors, le lave-linge, il ne lavera pas la vaisselle, il ne sera pas multifonction. En revanche, il sera durable à vie, réparable à vie.
Ouais, c'est la promesse que vous faites avec vos produits. Il est déjà entièrement dessiné, ce lave-linge, ou vous travaillez encore à sa conception?
Non, on est encore dans la phase de conception, donc on sait où on veut aller, on a testé différents éléments. Maintenant, il y a encore un travail, avant de passer à la phase d'industrialisation, de design du produit, pour s'assurer, notre approche, c'est que toutes les pièces soient parfaitement accessibles, facilement accessibles, donc de manière à pouvoir être changées au moment où elles seront usagées. Il y a un gros travail en amont de design pour rendre toutes ces pièces accessibles.
Et justement, ce lave-linge sera peut-être plus simple, moins complexe que ce produit par vos concurrents, avec pléthore de programmes différents?
C'est exactement ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a interrogé des Français pour savoir quels étaient les programmes qu'ils utilisaient pour réduire le nombre de programmes. aux seuls programmes qui sont réellement utiles, pour travailler aussi de manière un peu plus allégée sur la partie électronique. En revanche, il comportera des spécificités, et notamment un filtre à particules pour essayer de sortir de l'eau la moins polluée possible.
Oui, avec le moins de micro-particules de plastique qui sont notamment rejetées par nos vêtements en polyester.
Exact.
Notamment. C'est encore possible aujourd'hui de concevoir un lave-linge avec, pour cahier des charges, une majorité de composants fabriqués en France ?
C'est difficile, je ne vous le cacherai pas, mais c'est un challenge qu'on relève, qu'on a relevé avec la bouilloire, qu'on va relever avec le grille-pain, et donc on va continuer. Ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'en grossissant, on arrive à fédérer autour de nous d'autres acteurs qui se remettront à produire certains composants en France.
Il sera produit en Ariège, c'est ça, ce lave-linge ?
Exactement. On a déjà réservé un terrain pour accueillir notre usine, unité de production, et c'est au cœur de l'Ariège.
Et quand est-ce qu'elle sera opérationnelle, cette future usine ?
Ça va être, c'est sur 2024.
Et vous pensez créer combien d'emplois grâce à ce futur lave-linge made in Ariège ?
On a des ambitions importantes sur les 3 prochaines années. On table sur la création de 60, passer à une équipe de 60 personnes. Donc aujourd'hui, on est 6.
Vous êtes 6 et vous avez besoin de plus de monde parce que vous commercialisez, je le disais en introduction, une bouilloire en inox, une bouilloire épatante, multifonction, qui ne sert pas uniquement à faire du thé. Expliquez-nous.
Et alors en fait, l'idée c'était de se dire, nos produits sont durables et réparables, autant qu'ils soient aussi le plus utiles possible. Et donc on a réfléchi à tout ce qu'on faisait avec de l'eau qui chauffe, et on a ajouté des accessoires et des programmes pour permettre à la bouilloire de se transformer en théière et de faire infuser son thé, sa tisane exactement à la bonne température et pendant le bon laps de temps. Aussi de faire de la cuisson, pâtes, œufs, de faire chauffer des biberons, de faire de la cuisson à l'eau et de la cuisson à la vapeur. Et puis, mon préféré, un accessoire qui fait du bain-marie, mais qui est super pour faire fondre du chocolat, pour faire des gâteaux.
Oui. Et puis, elle est jolie aussi, cette bouilloire. Elle ne fait pas tache dans la cuisine. C'était aussi un critère, ça, l'esthétique de vos produits ?
Évidemment, puisque on a des produits qui vont rester longtemps dans les intérieurs, donc il fallait aussi que ce soit joli. C'était un élément essentiel aussi du cahier des charges.
On la trouve où, cette bouilloire ?
Alors aujourd'hui, elle est sur le site de Keepit. Elle est en vente, elle est commercialisée sur le site de Keepit, donc c'est keepit.fr. Et puis demain, on a pas mal de demandes de la distribution spécialisée ou généraliste et qui aimerait bien commercialiser nos produits. Donc là, la balle, elle est plutôt dans notre camp aujourd'hui parce qu'il faut qu'on augmente les cadences et qu'on puisse avoir suffisamment de stock pour rentrer dans la distribution physique traditionnelle.
Et elle est vendue à quel prix ?
Alors, elle vaut 234 € avec un accessoire et on peut ajouter jusqu'à 5 accessoires et on passe alors à 339.
Alors, vous nous le disiez au début de cet entretien, vous préparez aussi très prochainement le lancement d'un grille-pain que vous qualifiez de révolutionnaire, c'est-à-dire ?
Eh ben, l'idée, cette fois-ci avec le grille-pain, en plus d'être durable et réparable, parce que ça c'est quand même le cœur de la marque, c'est de venir remplacer des produits qu'on a et qu'on n'utilise pas beaucoup. Et donc avec le grille-pain, on est en train de dessiner, de concevoir des accessoires qui vont permettre de l'utiliser pour faire des crêpes, des gaufres, de la raclette, d'utiliser comme un grill ou comme une plancha.
Et il sortira quand alors ?
Lui, prototype présenté en novembre prochain pour une commercialisation et une mise sur le marché au premier trimestre 2023.
Comment vous est venue l'idée de créer Keepit ?
Moi, j'avais envie de mettre du sens dans mes activités professionnelles et mon lave-linge est tombé en panne. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Un, qu'on ne pouvait pas le réparer. Deux, que la durée de vie des produits électroménagers ne faisait que baisser. Et trois, qu'on ne pouvait pas les réparer. Et enfin, que ce qu'on trouvait en France venait plutôt de l'autre bout du monde. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il est là mon projet qui a du sens. Créons de l'électroménager qu'on ne jettera plus.
Merci beaucoup, Karen Maya-Lévy, de nous avoir présenté Keepit et ses appareils électroménagers durables, réparables et donc fabriqués en France. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt sur Europe 1.
À vous aussi. Merci beaucoup.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1 dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre. Et on va parler dans un quart d'heure de la petite vignette verte d'assurance.
Oui, celle qui se glisse sous les pare-brises de nos voitures. Il ne faut pas oublier de changer chaque année cette petite vignette si on ne veut pas écoper d'une amende de 35 €. Eh bien, elle pourrait disparaître et être entièrement remplacée par un fichier numérique. Comment ça fonctionne ? Quel bénéfice pour les conducteurs et les autorités ? Le dispositif sera-t-il suffisamment fiable ? La présidente de France Assureurs sera notre notre invité sur Europe 1.
Et puis on retrouvera ensuite Nicolas Carreau pour la prescription lecture.
Exactement, il nous parlera du nouveau roman de l'ancien policier Olivier Norek, devenu écrivain, retour de son héros Victor Coste pour une enquête à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mais avant la météo, Anissa Haddadi, et la chaleur encore bien présente aujourd'hui.
Oui, les températures augmentent encore aujourd'hui, à part sur les côtes de la Manche. C'est vrai qu'on n'aura que 16 degrés cet après-midi à Cherbourg, 18 à Brest. Ce sont les températures déjà prévues dans le sud de la France ce matin. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence, mais partout ailleurs, eh bien, le thermomètre est en hausse avec 22 degrés à Biarritz, 24 à Nice et Aurillac, 26 pour Marseille, Rennes et Nancy, 27 à Clermont-Ferrand et Strasbourg, 28 degrés pour Toulouse, 29 à Paris et à Lyon, 30 degrés à Bordeaux et 31 pour Jarnac. Alors ce matin, la douceur est déjà au rendez-vous, hein, parce qu'on a 8 à 16 degrés du nord au sud. Dans le ciel, quelques passages nuageux, un petit peu plus nombreux qu'hier, mais rien qui viendra gâcher cette impression de beau temps. On a un peu plus de nuages sur la Bretagne et la Normandie. On a des entrées maritimes ce matin sur les Landes, l'Hérault et du côté d'Ajaccio. Mais dans l'ensemble, c'est encore une très belle journée. Cet après-midi, les averses se déclenchent sur les Alpes, les reliefs corses et puis dans l'arrière-pays provençal, mais ça ne sera encore pas assez d'eau pour nos terres.
Merci beaucoup Anissa Haddadi et à tout à l'heure. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce mardi, Emmanuel Macron défend l'idée d'une Europe à géométrie variable. Le chef de l'État plaide pour une révision des traités et la création d'une communauté politique au sein même de l'Union. Explication dès le début de ce journal. On avait prédit une démonstration de force à Moscou à l'occasion des commémorations du 9 mai. 11 000 militaires et des chars flambant neufs ont défilé comme à la parade. Mais la surprise finalement, c'est qu'il n'y en a pas eu, y compris dans le discours de Vladimir Poutine. Et puis Anissa nous en parlait à l'instant, l'été avant l'heure cette semaine sur une grande partie de la France. À Paris, les restaurateurs ressortent les terrasses éphémères. Les clients sont ravis.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et on est ravis d'accueillir pour ce journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Justement, on va commencer par la météo. Cette journée de mardi devrait être la plus chaude de la semaine. La montée du mercure s'accompagne d'un autre phénomène beaucoup plus désagréable. Le moustique, et pas n'importe lequel, le tigre, particularité, il peut transmettre plusieurs maladies comme le virus Zika ou encore la dengue. 67 départements sont en vigilance rouge et la chaleur annoncée devrait favoriser leur prolifération, Yasmina Katou.
Oui, pour se développer, les moustiques ont d'abord besoin d'humidité, mais surtout de chaleur. Et avec les températures attendues aujourd'hui, 32 degrés à Bordeaux par exemple, les moustiques tigres vont proliférer, alerte Stéphane Robert. Il est président du site Vigilance Moustique.
On dit normalement qu'un moustique tigre, il va mettre 10 jours à se transformer de larve en moustique adulte s'il fait 23 degrés le jour et 15 degrés la nuit. Mais là, quand il fait 30 degrés le jour, c'est plus 10 jours, quoi, c'est 6-7 jours, hein. Ça va beaucoup plus vite.
Pour faire face à l'arrivée des moustiques tigres, il vaut mieux avoir un très bon répulsif et ils ne se valent pas tous.
C'est plutôt l'icaridine, l'actif qui a le meilleur ratio, efficacité, innocuité.
En plus du spray anti-moustique, il est recommandé de porter des vêtements amples et couvrant les bras et les jambes. En cas de symptômes après une piqûre comme de la fièvre, il faut impérativement consulter un médecin.
Yasmina Katou.
5 heures passées de 32 minutes sur Europe. Réformer l'Europe et réviser les traités, c'est le projet d'Emmanuel Macron.
Il a même fait une promesse, celle de contribuer à bâtir une Europe souveraine, unie, démocratique et ambitieuse. Discours prononcé hier à Strasbourg devant le Parlement européen. Emmanuel Macron veut réviser les traités européens et surtout créer une communauté politique européenne. De quoi s'agit-il exactement, Alexandre Chauveau ?
Alors d'abord, la révision des traités. Emmanuel Macron souhaite en fait que les principales décisions prises par l'Union européenne ne soient plus votées à l'unanimité, mais à la majorité qualifiée. Le but, c'est d'en finir avec les blocages imposés par certains pays. On l'a vu récemment, par exemple, avec l'embargo sur le pétrole russe que n'ont pas voté la Hongrie et la Slovaquie, ou encore lors de la crise sanitaire, lorsque plusieurs pays du nord de l'Europe se sont montrés réfractaires à l'idée de voter le plan de relance européen. Emmanuel Macron souhaite ainsi convoquer une convention de révision des traités, et ce, dès le mois de juin prochain. L'autre grand chantier lancé par le chef de l'État, c'est donc la création d'une communauté politique européenne pour répondre aux délais d'attente souvent très longs auxquels certains pays, et notamment l'Ukraine, sont confrontés en déposant une demande d'adhésion à l'UE. Emmanuel Macron reprend ici l'idée d'une confédération lancée par François Mitterrand en 1989 et qui permettrait à plusieurs pays, sans pour autant adhérer à l'Union, de bénéficier d'un espace de coopération renforcé en matière de sécurité, d'énergie ou de transport.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1 crée une une communauté politique européenne. Idée très intéressante, estime Olaf Scholz. Le chancelier allemand l'a dit au président français lors de leur entretien à Berlin hier en marge de cette rencontre. Le chef de l'État a par ailleurs affirmé qu'il connaissait le nom de son futur Premier ministre tout en refusant de le dévoiler.
On attendait attentivement le défilé du 9 mai à Moscou et le discours de Vladimir Poutine. Attente teintée d'inquiétude sur fond de guerre en Ukraine.
Et pas de surprise en ce qui concerne le défilé militaire. La démonstration de force a bien eu lieu, mais sans l'aviation clouée au sol. La faute à la météo, affirme Moscou. Tout le monde guettait le discours de Vladimir Poutine. S'il n'a pas renouvelé la menace du feu nucléaire, il a justifié l'opération russe en Ukraine. Ce n'est pas une surprise pour Anna Colin-Lebedev, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste des sociétés post-soviétiques.
Il y a un désaccord entre nous, différentes personnes travaillant sur la Russie qui avons regardé ce discours. Certains y ont vu un Poutine plutôt affaibli, plutôt mal à l'aise et donc quelque part voilà, colmatant les brèches par un discours habituel. D'autres, et moi je suis plutôt de ce nombre-là, considèrent que, je dirais, Poutine était plutôt serein dans ce discours, dans la mesure où il pensait être en terrain connu et parler à une population qui finalement était gagnée à la cause. Et donc il n'y a aucune raison d'espérer, on va dire, une désescalade. Rien n'a été dit qui pourrait signifier que la guerre s'arrête ou que la guerre va ralentir ou qu'une négociation est en cours. Il a plutôt joué, disons, le classicisme.
Anna Colin-Lebedev, maître de conférence à Paris-Nanterre, jointe au téléphone par Caroline Baudry.
Et à côté de cette guerre en Ukraine, il y a la crise sanitaire en Chine et ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'économie, notamment pour les entreprises françaises.
Le CAC 40 a plongé dans le rouge hier. La Bourse de Paris a perdu 2,75%. Francfort et Londres ont également chuté, ont également clôturé en baisse et perdu plus de 2%. En cause, la décision de la plupart des grandes banques centrales de relever les taux d'intérêt, mais pas seulement. La stratégie zéro Covid des autorités chinoises est en train de bloquer des pans entiers de l'économie. Les entreprises occidentales sont très inquiètes. Sébastien Lebelzik, correspondant d'Europe 1 à Pékin.
C'est l'équivalent de 40% du PIB chinois qui est impacté par les restrictions liées au Covid. Les chambres de commerce françaises, européennes et américaines tirent la sonnette d'alarme en publiant simultanément leurs enquêtes. On y apprend que 60% des entreprises étrangères en Chine ont réduit leurs prévisions de revenus pour cette année. Et tout le monde souffre, de Pernod Ricard à Valeo, en passant par Coca-Cola et Apple. Toutes se plaignent des confinements et beaucoup parmi les expatriés des 1100 entreprises françaises envisagent déjà de quitter la Chine. Grégory Louvel est avocat d'affaires à Pékin.
75% des représentants des entreprises françaises en Chine, à Pékin et à Shanghai, qui sont en confinement, envisagent de partir, peut-être même dès cet été. Dans ces conditions, faire du business en Chine demeure extrêmement aléatoire.
Des départs loin d'émouvoir le régime communiste dont le virage autoritaire et nationaliste avait déjà commencé à faire fuir de nombreux expatriés avant la pandémie. Mais l'entêtement de Pékin dans sa lutte contre Omicron risque bien d'abîmer encore plus l'image de l'usine du monde. La Chine est le dernier grand pays à ne pas avoir rouvert ses frontières. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Et crainte que ne connaît pas le marché de l'art, un portrait de Marilyn Monroe a été vendu 195 millions de dollars chez Christie's. Shot Sage Blue Marilyn, tableau signé par le maître du pop art Andy Warhol. C'est l'œuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue dans le cadre d'une vente aux enchères.
Alors, on vous parlait au début de ce journal du retour du moustique tigre. Eh bien, on va le conclure, ce journal, avec un autre retour, celui des terrasses aux abords des cafés et restaurants.
Un dispositif reconduit à Paris depuis le 1er avril et jusqu'au 31 octobre. Mais les terrasses saisonnières poussent comme des champignons avec l'arrivée des beaux jours. Environ 2000 sont autorisées à Paris. Certaines sont toujours en cours de montage, d'ailleurs. Une aubaine pour les restaurateurs qui espèrent gonfler leur chiffre d'affaires et pour les clients ravis de trouver une place au soleil. Reportage Thibaut Hu.
Face à sa terrasse bondée, Laura a le sourire, cette gérante est ravie de retrouver sa clientèle.
Bah, température, ça veut dire grand soleil, ça veut dire cocktail, ça veut dire tourisme, plus de clientèle. Du coup, on sent que les clients sont beaucoup plus joyeux, beaucoup plus motivants pour les serveurs aussi. Ça fait plaisir.
Le chiffre d'affaires, lui aussi, est au beau fixe. Même s'il manque encore de personnel, Kevin, le patron d'un bar, est soulagé après les douloureux épisodes de pandémie et de fermeture.
Donc voilà, le Covid, il est fini, les touristes reviennent, donc... Ça marche de mieux en mieux. Maintenant, tous les midis, la terrasse, elle est pleine. Hein. Peut-être 25% de plus quand même, de clients.
Un beau temps retrouvé qui fait des heureux parmi les clients. Cyrine a les yeux fermés, les cheveux détachés et profite des rayons du soleil.
On s'est pris une petite grenadine fraîche. Ça veut dire que les vacances approchent. Bon, déjà, le beau temps, ça met du baume au cœur. Même les rooftops et tout, je pense qu'on va y aller plus.
Alors, devant et derrière le bar, tous profitent des fortes températures et espèrent les voir durer.
Un reportage Thibaut Hu, les restaurateurs qui promettent de respecter la loi et notamment de fermer ces terrasses à 22h comme l'exige le règlement.
Eh bien, on jugera sur pied. pièces. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est sur les 1600 mètres de la piste en sable fibré de Chantilly que va se courir ce Quintet. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à placer en tête de ma sélection le numéro 11, Marrakech Moon, qui vient de s'imposer de peu, mais avec la manière à ce niveau le 5 avril à Saint-Cloud, confirmant ainsi sa deuxième place obtenue fin février sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. On lui opposera les numéros 2, It's All Dream, 14, Chicho Boy, 8, Bassiver et 13, Cartilla, classés respectivement 1er, 2e, 4e et 5e d'un quintet similaire le 31 mars à Chantilly sur ce tracé. Et à la lecture de cette performance, ils doivent absolument figurer dans un pronostic. Ensuite, méfiez-vous de Brouillard, le numéro 5, souvent vu à son avantage dans ce style d'épreuve, et d'Oxalis, le numéro 6, qui effectuera un long déplacement depuis l'Espagne avec de légitimes ambitions. Enfin, le numéro 7, le petit prince Adi, n'est pas incapable lui aussi de s'immiscer à l'arrivée de ce quintet. Mon pronostic, 11, 2, 14, 8, 13, 5, 6 et 7.
Alors, il me semble que notre réalisateur Fabrice Laffitte a décidé de miser toutes ses économies sur Marrakech Moon.
Oui, mais il a raison.
Voilà, ça n'engage que lui. Les pronostics de Thierry Léger sont à retrouver évidemment sur europe1.fr. Merci Thierry.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est un 10 mai, le 10 mai 1994, que Nelson Mandela devenait président de l'Afrique du Sud. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Amblin.
Lord, il est élu avec 62% des voix et devient le premier président noir de l'Afrique du Sud.
Oui, il prête serment, une rose blanche à la boutonnière de son costume sombre, dans un hémicycle où des Noirs sont assis sur les bancs dont ils furent exclus pendant plus de 3 siècles depuis leur mise en esclavage. L'archevêque Desmond Tutu, en soutane violette, fait acclamer Nelson Mandela. Nous sommes tous libres aujourd'hui, noirs et blancs, tous enfin libres, dit-il. Nelson Mandela évoque devant la foule le temps où il vécut dans le bagne de Robben Island, les pires moments de sa vie.
Ce donjon de l'infamie, dit-il, symbolise l'étouffement de nos libertés, mais plus simplement le colonialisme en Afrique du Sud. Ce n'est pas un discours de vengeance. C'est le temps du souvenir avant de s'attaquer dès aujourd'hui en tant que président aux prisons sociales de la pauvreté que viennent à peine d'entrouvrir les portes de la citoyenneté.
Récit de François Clémenceau, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Pretoria en 1994.
Et la cérémonie d'intronisation, Laure, est tout simplement grandiose.
Oui, 5000 invités, 150 000 spectateurs au moins, 4 heures de spectacle. Le décor, c'est l'amphithéâtre du palais du gouvernement à Pretoria. Et jusque dans le centre-ville, il y a cette pelouse bordée d'arbres où se tient le peuple africain. Un parterre d'invités l'écoute aussi.
On a reconnu le duc d'Édimbourg, Yasser Arafat, Fidel Castro qui fut très applaudi, Daniel Mitterrand, la belle Benazir Bhutto et toutes les élégantes têtes couronnées d'Europe et du tiers-monde.
C'est un jour férié dans toute l'Afrique du Sud. 4 ans plus tôt, Nelson Mandela était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 en 1990. Il venait d'être libéré depuis peu et il se battait toujours pour la fin de l'apartheid.
J'ai déclaré que je suis contre la domination des Noirs, tout comme je suis contre la domination des Blancs. Nous ne pensons pas en termes de couleur. Nous n'avons pas de blanc ni de noir. Nous avons l'Afrique du Sud. Et cette optique veut qu'il n'y ait pas de distinction quand il s'agit de Sud-Africains sur la base de leur race et de leur couleur.
Nelson Mandela se retire en 1999 après un seul mandat de président de la République. Il meurt en décembre 2013 à l'âge de 95 ans.
Merci beaucoup Lord d'Autriche et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, la disparition de la vignette verte des pare-brises des voitures.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h43 sur Europe 1 et vous êtes peut-être déjà sur la route pour vous rendre au travail. Eh bien, on va s'intéresser à présent à ce qui se trouve sur votre droite si vous êtes au volant. Ce petit bout de papier vert carré qu'on glisse dans un étui transparent collé à notre pare-brise. Une vignette que l'on remplace chaque année et qui certifie que notre voiture est bel et bien assurée. Elle nous accompagne sur les routes de France depuis 40 ans. Et elle pourrait bien disparaître. On en parle, Omblin, avec la présidente de France Assureur.
Bonjour Florence Lussmann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors pour rappel, cette vignette verte reçue par courrier chaque année se détache de l'attestation d'assurance. Et cette attestation, les conducteurs sont également obligés de se déplacer avec, comme la carte grise de la voiture. Lors d'un contrôle de police ou de gendarmerie, on risque une amende de 35 euros en cas de non-présentation. Cette vignette verte, Florence Lussmann, vous militez depuis plusieurs années pour qu'elle disparaisse. Pour quelle raison ?
Eh bien d'abord parce que historiquement, cette vignette verte, cette vignette papier, elle avait pour ambition de lutter contre la non-assurance. Mais il se trouve que depuis plusieurs années, les assureurs ont développé un fichier des véhicules assurés qui est beaucoup plus fiable que le petit bout de papier vert et qui permet de beaucoup mieux lutter contre la fraude à l'assurance ou contre la non-assurance. Donc on s'est dit que c'était vraiment une occasion remarquable de simplifier la vie de nos assurés en supprimant donc à la fois la vignette et l'attestation d'assurance qui est également sur papier vert.
Oui, parce que c'est, on vient de le dire, mais c'est une précision à apporter. Il faut absolument à chaque fois se déplacer avec son assurance dans la voiture et la vignette doit être à jour. Sinon, on écope d'une
absolument.
Amende. C'est ainsi qu'il faut simplifier la vie des Français, ce que vous dites.
Oui, tout à fait, parce qu'il arrive qu'on oublie de remplacer l'ancienne vignette par la nouvelle vignette pour la nouvelle année d'assurance. Et là, vous pouvez donc devoir payer une contravention de 35 euros. Donc c'est pour ça qu'on propose que les contrôles se fassent sur la base de notre fichier des véhicules assurés, qui est en plus beaucoup plus fiable, parce que vous voyez ce petit papier vert, si vous résiliez votre assurance en cours d'année, ou si c'est l'assureur qui vous résilie, ben en fait vous le conservez. Et donc si ça se trouve, en fait vous n'êtes plus assuré, et pourtant vous avez un petit papier vert. Donc si on veut vraiment lutter contre la non-assurance, il vaut mieux utiliser le fichier des véhicules assurés, comme d'ailleurs le font quasiment tous les pays européens maintenant.
Oui, on va revenir dans un instant sur ce fichier des véhicules assurés. Rappelons qu'il est obligatoire d'assurer sa voiture, au minimum au tiers. Et donc, vous proposez de démocratiser cette dématérialisation qui a été créée en 2016. Comment fonctionne-t-il, ce fichier des véhicules assurés ?
Eh bien, tout simplement, c'est un fichier qui répertorie l'ensemble des contrats d'assurance automobile et des véhicules qui sont donc assurés par les assureurs de la fédération. Donc, si vous êtes arrêté sur le bord de la route, le fichier est à jour. Hein. En quelques heures, il est mis à jour si vous prenez une assurance ou au contraire, si vous résiliez votre assurance. Ça permet aussi, si vous vous assurez pour la première fois, d'être beaucoup plus rapide puisque vous pouvez immédiatement repartir au volant de votre véhicule et vous n'avez pas besoin d'attendre l'envoi de ces petits papiers verts. J'ajoute que ces papiers verts, on en imprime pas moins de 50 millions chaque année. Donc c'est du papier, de l'encre, de l'acheminement. Et donc évidemment, ce serait une contribution positive à la transition écologique de se tourner vers le fichier des véhicules assurés et de supprimer donc ce certificat d'assurance papier.
Donc ce que vous dites, c'est que ce fichier des véhicules assurés existe déjà, il est déjà utilisé par les forces de l'ordre.
Il est déjà utilisé, effectivement, chaque jour, les forces de l'ordre l'interrogent environ 20 000 fois dans la journée. Donc, c'est un outil qui fonctionne bien, qui est fiable à plus de 99%, mais beaucoup plus fiable en tout cas que des documents papier. Et puis surtout, ça va simplifier la vie de nos assurés. Et c'est ça qu'on cherche.
Un fichier dématérialisé, ça se pirate également, donc j'imagine qu'il y a pas mal de sécurité à prévoir.
Bien sûr, mais le fichier est développé pour cela, donc le fichier est fiable.
Donc là, s'il est en activité, si les forces de l'ordre l'utilisent, donc c'est peut-être qu'une question de temps. Vous discutez avec les ministères de l'économie, des transports et de l'intérieur. Où en êtes-vous ?
Bien sûr, on discute de cette proposition depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai qu'ils nous ont aidés, on échange énormément pour aboutir à cette fiabilisation quasi totale du fichier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est prêt pour un basculement à l'image, encore une fois, de ce qui se fait dans quasiment tous les autres pays européens. L'Allemagne a basculé vers un système de ce type déjà en 2008.
Donc là, vous attendez la mise en place d'un nouveau gouvernement pour finaliser ces discussions?
Oui, on l'espère en tout cas.
Espérez-vous mettre en place cette nouvelle mesure quand? Dans quelques mois, l'année prochaine?
Écoutez, c'est à eux d'en décider. Hein. De toute façon, ouais. Il faut qu'ils prennent un décret. Donc c'est une décision gouvernementale, hein, c'est normal, qui leur appartient. Ensuite, il faut prendre un décret. Et puis, il faudra aussi bien communiquer et expliquer à tous les Français que dorénavant, ils n'ont plus besoin de ces petits papiers verts et que l'interrogation sera faite directement par les forces de l'ordre si jamais ils sont arrêtés au volant de leur voiture. Donc il faut quand même oui. une période d'explication et de pédagogie, mais le plus vite, le mieux pour nous.
Bien sûr, il faudra changer nos habitudes. Et qu'en pensent, selon vous, les conducteurs qui, depuis 40 ans, attendent le courrier de l'assurance dans leur boîte aux lettres?
Mais écoutez, tous les conducteurs avec lesquels nous avons échangé sont très favorables à cette mesure. C'est une mesure de simplification administrative, donc ils sont effectivement très favorables.
Merci beaucoup, Florence Luttmann, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, la présidente de France Assureurs. Très bonne journée.
Très bonne journée à vous.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. Soyez tous les bienvenus. L'essentiel de l'actualité, Johan Tritz.
La poignée de main entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron à Berlin. Le couple franco-allemand uni pour soutenir l'Ukraine. Image aussi envoyée à la Russie de Vladimir Poutine et son défilé militaire pour commémorer le jour de la victoire. Emmanuel Macron qui prône la création d'une communauté politique européenne où seraient incorporés des pays non membres de l'Union européenne. L'ONU tire la sonnette d'alarme. Selon l'organisation, il y aurait 50% de chances qu'au moins une année sur les cinq prochaines, le réchauffement climatique augmente d'1,5 degré, un seuil atteint qui serait catastrophique. L'ONU justement qui va tenir une réunion à la demande de Washington demain, cela fait suite au dernier tir de missile de la Corée du Nord. Philippines maintenant et la victoire écrasante de Ferdinand Marcos Jr. à l'élection présidentielle, c'est le fils du défunt dictateur chassé du pouvoir il y a 36 ans.
Allez, on vous emmène maintenant dans votre librairie préférée.
Et avec votre chroniqueur préféré, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Omblin, bonjour Julien.
Bonjour Nicolas. Alors ce matin, vous nous parlez du nouveau polar d'Olivier Norek.
Oui, Olivier Norek qui truste encore les classements de vente avec ce nouveau livre. Ça s'appelle « Les brumes de Kaplan », c'est chez Michel Lafon. Et pour les fans, c'est le retour de Victor Coste, son héros, l'un de ses héros. Ça va pas fort, Coste, dans cette nouvelle histoire. Il traîne un vieux traumatisme que les lecteurs des premiers romans connaissent. Maintenant, il est très loin puisqu'on le retrouve à Saint-Pierre et Miquelon, voyez, du côté est du Canada. Archipel français, bien sûr, Coste y est devenu le chef de la police aux frontières. Mais en réalité, il travaille pour un service un peu spécial, celui qui est en charge des témoins des repentis à protéger.
Comme dans les films américains.
Exactement. Et au passage, on apprend qu'en France, ce service est tout récent parce que oui, Olivier Norek est un ancien policier et ses romans ont la particularité d'être très réalistes dans les détails.
Et que lui arrive-t-il à Victor Coste sur Saint-Pierre et Miquelon?
Il doit s'occuper d'Anna, une victime. Elle a été kidnappée 10 ans plus tôt, mais est aussi témoin de plusieurs meurtres. D'ailleurs, le roman commence par l'enlèvement d'Anna à 14 ans avec un mode opératoire très très particulier et très pervers. 10 ans plus tard, donc, on l'a retrouvée dans la cage du monstre du serial killer qui lui court toujours. Le rôle de Coste, c'est de la protéger, de lui tirer les vers du nez, de comprendre pourquoi elle a été épargnée, contrairement aux autres victimes.
Et pourquoi ça s'appelle « Les brumes » ?
Ah, parce qu'Olivier Norek aime les obstacles dans ses romans.
C'est ce que je cherche à chaque fois que je commence un roman. Et là, il y a 6 ou 7 ans, on m'a parlé de ces fameuses brumes de Kaplan. Les brumes de Kaplan, c'est donc un phénomène météorologique. C'est la rencontre de deux courants, le Gulf Stream et le Labrador. Ça crée une sorte de chape, un énorme nuage qui fait la taille exacte de l'île de Saint-Pierre, un peu comme s'il avait été créé uniquement pour elle, un peu comme s'il était là pour cacher un secret, un mystère. Et c'est ce mystère que je vous invite à découvrir. Ce qui est intéressant dans les brumes de Kaplan, c'est que ce sont les plus denses, les plus opaques du monde. Et donc c'est un obstacle parce que ça va être une enquête à l'aveugle.
Des brumes denses et obscures, c'est sûr que c'est idéal pour un polar, Nicolas.
Oui, d'autant que dans ce brouillard, Olivier Norek nous prend par la main pour nous guider, certes, mais pour nous balader surtout. Et à la fin, la brume se dissipe et on écarquille les yeux. Au passage, on s'intéresse aussi à la psychiatrie, à la psychologie, particulièrement fouillée dans ce roman-là. La psychologie des victimes, mais aussi des criminels. Vous savez, Hannibal Lecter dans Le silence des agneaux, c'est un monstre, mais c'est aussi un génie. Et on a un peu cette image-là, parfois, des serial killers. Eh bien, et je ne vous dis rien, bien sûr, sur la résolution. À un moment, une des supérieures de Coste dit « Contrairement à ce qu'on croit, les serial killers sont rarement des joueurs d'échecs. Et c'est ce que pense aussi Olivier Norek.
C'est qu'en face d'un monstre, en face d'un serial killer, comme on en connaît, hein, comme Fourniret ou Guy Georges, on a besoin de se dire que cette menace si forte, si puissante, est obligatoirement accompagnée d'un esprit. Alors que non, en fin de compte, c'est très animal le meurtre. C'est très bestial. Quand j'étais policier, et je le suis toujours, et j'ai travaillé à la crime, quand on était en face d'un assassin, on n'avait jamais justement le fameux criminal mind, l'esprit criminel, très éclairé, très intelligent. On avait la plupart du temps quelqu'un qui était prostré sur sa chaise. Moi, les plus grands cerveaux que j'ai rencontrés, c'est quand j'ai bossé à la financière. Des gens qui étaient tellement brillants que quand je les interpellais, il y avait même un soupçon de respect.
Oui, et puis c'est moins monstrueux. Voilà, dans les brumes de Kaplan, c'est le titre du nouveau roman d'Olivier Norek. Chez Michel Lafond, merci beaucoup, Nicolas Caro, et on se retrouve dimanche à partir de 14h dans votre émission La Voix est libre.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h58, dans un instant la météo, le journal et un témoignage, Julien.
Oui, un témoignage exceptionnel recueilli par notre grand reporter Nicolas Toneff. Il a pu joindre Sergueï Orlov, c'est le maire adjoint de Mariupol, ce port stratégique au sud-est de l'Ukraine qui est désormais contrôlé à plus de 80% par l'armée russe. Combien de temps vont tenir les derniers soldats retranchés dans le complexe sidérurgique d'Azovstal? Ils ont annoncé hier qu'ils ne comptaient pas se rendre. Comment survivent les civils restés dans les décombres de cette ville littéralement pulvérisée par les bombardements continus de l'armée de Poutine? Et puis, il y a ces nouveaux charniers aussi découverts aux portes de Mariupol. Voilà de quoi il sera question dans ce document européen. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Et puis juste après Omblin, on en aura bien besoin de votre partition.
Oui, avec la musique disco-funk du groupe Imagination. Searching for a destiny. Le chanteur Lee John sera en concert ce soir à l'Olympia à Paris. Imagination dans 20 minutes.
Ma chère Anissa Haddadi, est-ce que la météo sera aussi funky que la musique d'Imagination?
Ah oui, oh bah là, vous pouvez mettre Imagination à fond, hein, dans la voiture, à la maison, sous le soleil, avec les lunettes de soleil. C'est totalement l'ambiance d'aujourd'hui. Le beau temps se poursuit, ça va être très agréable. Je vous la fais rapide. Sur la moitié nord, on a un petit peu plus de passages nuageux avec un risque d'averse sur le Jura et les Vosges. Sur la moitié sud, c'est estival avec des températures. Je ne vous dis que ça, 27 à Strasbourg, 28 à Reims, 29 à Paris, 30 degrés à Bordeaux, 31 pour Jarnac cet après-midi. Normalement, aujourd'hui sera la journée la plus chaude de la semaine.
Merci, c'est noté. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Très bon début de journée à tous. Nous sommes le mardi 10 mai. Il est 6h. Et à la une ce matin, bientôt le retour du litre à 2 euros. Le prix du carburant repart encore à la hausse. Un cercle vicieux lié à l'inflation et au projet d'embargo sur le pétrole russe. À quand une amélioration? Vous allez tout comprendre dans un instant. Le chagrin de la famille Aleno, le fils du chef cuisinier multi-étoilé, est décédé dimanche soir, percuté par un chauffard. Un suspect a été placé en garde à vue. Et puis réviser son bac sous le soleil, bonne ou mauvaise idée? Un sacré dilemme pour les 2 millions de lycéens qui démarrent les premières épreuves demain avec une météo estivale, on vient de l'entendre avec Anissa Haddadi. Sortez vos surligneurs, bachotage à la fin de ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. Dans nos stations-service, le répit aura été de courte durée. En une semaine, 6 centimes de plus en moyenne pour le prix du gasoil. Chiffre du ministère de la Transition écologique avec des pics notamment en Île-de-France, en Lozère et en Corse. Élise Dangean, 23 millions d'automobilistes roulent au diesel. Un carburant désormais à plus d'1,90€ le litre.
Oui, à 1,94€ pour être très précise. On se rapproche donc dangereusement de la barre plus que symbolique des 2€. Concrètement, pour un plein de 60 litres, cela représente un peu plus de 115€ à débourser. Pour l'essence, les augmentations sont du même ordre, plus 6 centimes en moyenne en seulement 7 jours. Des hausses qui réduisent l'effet de la remise à la pompe mise en place par le gouvernement et qui sont dues notamment au cercle vicieux inflationniste, explique Jean-Pierre Favennec, spécialiste de l'énergie et du pétrole.
Le prix des carburants augmente d'une part parce que le prix du pétrole lui-même augmente, on est vers 110$ le baril, mais aussi parce que les coûts de distribution augmentent dans la mesure où tout augmente, parce que vraiment c'est de l'inflation qui se porte également sur les frais de distribution des carburants entre les raffineries par exemple et les stations-service.
Alors évidemment, il y a aussi l'embargo européen sur le pétrole russe qui affole les marchés et qui fait craindre de nouvelles hausses à la pompe à mesure qu'il se précise.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Un embargo sur le pétrole russe et aussi sur les composants électroniques, une sanction qui freine l'armement de la Russie.
Oui, le pays serait même à court de missiles guidés selon Washington. Pour le Pentagone, des Ukrainiens auraient aussi été envoyés contre leur gré en Russie. 1 200 000 personnes estiment Kiev. L'Ukraine qui peut compter sur le plein soutien, je cite, de la France et de l'Allemagne. Emmanuel Macron et le chancelier Scholz étaient ensemble sous la porte de Brandebourg hier soir. Monument berlinois éclairé pour l'occasion en jaune et bleu, couleur de l'Ukraine.
6 heures passées de 2 minutes sur Europe 1. Un bouquet de fleurs et un message fermé pour une durée indéterminée, porte close au restaurant parisien où Antoine Alino était chef. Le jeune homme de 24 ans est décédé tragiquement dimanche soir.
Le fils du chef multi-étoilé a été percuté par un chauffard à bord d'une voiture volée. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire aggravé. Et Gladys Laffitte, un suspect, a aussi été arrêté.
Oui, d'ailleurs, l'homme a été placé rapidement en garde à vue puisqu'il a été interpellé juste après les faits par un commissaire de police hors service alors qu'il prenait la fuite à pied. Le chauffard venait de provoquer cet accident dimanche peu après 23h dans le 7e arrondissement de Paris. D'abord, le voleur s'est présenté au voiturier d'un restaurant chic du quartier avec un faux ticket pour se faire remettre les clés d'une voiture de luxe. Il a pris la fuite à bord de ce bolide, une Audi RS6 roulant à vive allure. L'homme de 25 ans a d'abord percuté un VTC au feu rouge avant de finir sa course et de renverser un scooter à l'arrêt. Le conducteur du scooter, Antoine Aleno, est décédé sur place malgré le massage cardiaque prodigué par les secours. Sa passagère est en vie, victime de multiples contusions. À ce stade, on sait peu de choses de ce chauffard, hormis qu'il est déjà connu pour différents délits routiers.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Ils s'en remettent désormais à la plus haute juridiction du pays, le pourvoi en cassation des époux Fillon après leur condamnation en appel hier. 5 ans après le début de l'affaire des emplois fictifs, l'ancien Premier ministre a été condamné à 4 ans de prison, dont un an ferme. 6h et presque 4 minutes. Julien, est-ce que vous sentez ça aussi ?
Petit rapport avec les températures estivales.
Exactement, Anissa nous en parlait, on a même 30 degrés par endroit, soleil, ciel bleu. Mais non, malheureusement, ce ne sont pas les vacances, encore moins d'ailleurs pour les lycéens qui démarrent les épreuves du bac. Histoire, géo, littérature ou mathématiques dès demain. Dernier bachotage, donc notre correspondant Charles Guyard a croisé des étudiants nantais loin, très très loin de l'ambiance morose des bibliothèques.
C'est quoi les critères de la qualité du travail ?
Installé à l'ombre sur l'herbe fraîchement tondue, Marceau interroge Marine.
C'est la dangerosité, la pénibilité du travail.
Pour ces deux lycéens qui préparent le bac éco, le meilleur critère de travail, c'est surtout de rester dehors, comme ici, dans ce grand parc du centre de Nantes.
C'est mieux que tout seul dans sa chambre.
C'est mieux que chez soi, surtout que là il fait chaud, donc c'est bien.
Tellement chaud d'ailleurs qu'en plus des fiches de cours, stylos ou autres marqueurs, Cali et Lou un peu plus loin, ont aussi glissé dans leur sac le nécessaire pour joindre l'utile à l'agréable.
Ouais, de l'huile bronzante. On se dit autant bronzer pendant qu'on révise. On prépare en même temps l'examen et l'été.
Et en attendant l'été, c'est donc l'heure de potasser. Et ils sont nombreux finalement à avoir choisi les révisions au grand air. À deux ou par groupe de 3 ou 4, on récite, on s'entraide.
C'est plus agréable que chez nous, quoi, qu'on est toute seule en train de réviser. Parce qu'on est plus captivé par notre téléphone, par exemple. Et là, au moins, si jamais on est tous en train de travailler, bah, c'est plus motivant, quoi.
On voit aussi d'autres personnes qui travaillent, donc c'est encore une source de motivation. Du coup, on s'est retrouvés ici pour manger. Puis bah, après, comme ça, on reste tout l'après-midi avant l'apéro.
Et voilà un beau programme qui permet de s'aérer l'esprit et surtout de bien déstresser avant le jour J.
En récompense.
Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Et puis voilà peut-être un terme économique qu'il va falloir réviser pour le programme. Les NFT, c'est une sorte de certificat numérique. Alors pour la définition, Julien, je vous renvoie à la page 275 du Larousse.
Des jetons non fongibles, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est ça, quelle culture, c'est infini. Le mot NFT fait partie, en tout cas pour ceux qui l'ignorent, des petits nouveaux de l'édition 2023 du Larousse, comme le wokisme, le pass vaccinal ou l'aloumi, délicieux fromage de chèvre venu de Chypre. Vous conseille même au petit-déj.
Il n'y était pas avant l'aloumi.
Eh ben non, non, non. Pourtant, j'ai cherché pas d'aloumi en 2021.
Bon, voilà. Eh ben écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Roman Hockey. On achètera donc le Robert, c'est ça, ou le Larousse ?
Le Larousse.
Le Larousse. Merci beaucoup, Roman.
6h06, les sports.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Le journal des sports de Martin Lange et petite question, où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine?
Oui, le contrat de la star du PSG se termine le 30 juin prochain. Mbappé doit faire un choix dans les jours à venir, prolonger à Paris ou signer au Real Madrid, le club de ses rêves. Et parmi les éléments clés de ce dossier, il y a ce qu'on appelle les droits d'image. Le joueur est très ferme sur le sujet. Le PSG serait prêt à céder 100% de ses droits publicitaires, tandis que le Real ne lâchera pas plus de 50%. Et cela peut faire la différence, selon Vincent Chaudel, économiste du sport.
Se priver de 50% des revenus commerciaux potentiels du joueur star qu'est Mbappé pourrait être un problème pour le Real Madrid. C'est un levier de négociation réel pour le PSG par rapport au Real Madrid.
Kylian Mbappé qui a d'ailleurs passé la journée d'hier à Madrid.
On passe au cyclisme, Martin, avec une première arrivée au sommet aujourd'hui sur le Tour d'Italie.
Oui, et pas n'importe quel sommet, c'est l'Etna, le célèbre volcan sicilien qui se dressera sur la route des coureurs. Une ascension par un versant inédit qui a de quoi effrayer, un plus de 25 km avec des pentes à 14%. Le Français Guillaume Martin espère y faire bonne figure.
C'est le premier rendez-vous vraiment pour les grimpeurs sur ce Giro, donc je suis évidemment motivé et j'ai hâte d'y être. Ce sera le moment pour symboliquement marquer son empreinte, ce début de Giro.
Guillaume Martin, micro-rampin d'Axel May.
En bref, pour finir, Martin.
Eh bien, une info, ça va très mal pour le tennis français. Pour la première fois depuis 1971, aucun joueur tricolore n'est en lice dans le tableau du Master 1000 de Rome qui a débuté hier.
Merci, Martin. C'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant. Un document exceptionnel. Le maire adjoint de Mariupol témoigne sur Europe 1. Tout de suite.
5h, 6h30.
Europe Matin.
Bon début de matinée. Il est 6h10 sur Europe 1 et on vous propose à présent un témoignage exceptionnel recueilli hier après-midi par notre grand reporter Nicolas Toneff. Il a pu joindre Sergueï Orlov. C'est le maire adjoint de Mariupol, ville martyre, où une poignée de soldats ukrainiens résistent toujours face à l'envahisseur russe. Écoutez.
Sergueï, comment allez-vous et quelle est la situation actuellement à Mariupol?
La situation à Mariupol, comme vous le comprenez très bien, est très compliquée. On le sait tous. La ville est occupée pour une grande partie par les forces russes. Je dirais jusqu'à 80-85% du territoire. Il y a une quinzaine de pourcents du territoire qui sont toujours défendus par les militaires ukrainiens. Il s'agit de l'armée régulière, il s'agit aussi du régiment Azov. Du territoire de la Syrie Azovstal, c'est 11 km², 1100 hectares, où il y a toujours nos militaires qui défendent ce territoire et qui sont constamment attaqués, bombardés, tirés dessus par l'armée russe. Nous savons aussi qu'il y a beaucoup de civils à Mariupol. Un peu plus de 100 000 civils qui sont dans des conditions très difficiles, car à Mariupol, il n'y a toujours pas d'eau, pas d'électricité, pas d'égout, il n'y a pas de gaz. Donc, nos citadins doivent vivre sans. Il manque aussi de la nourriture, de l'eau, des médicaments. Il n'y a pas de travail. Les conditions sont très difficiles pour les gens de Mariupol occupés par les Russes.
Les Russes continuent à bombarder les Assyries Azovstal ou c'est un peu plus calme?
Oui. Il y a des accalmies, surtout pendant l'évacuation des civils, quand les civils quittent le territoire. C'est là qu'on arrête les tirs. C'est vrai que nos militaires aident à évacuer les civils, dégagent les civils des décombres. Dans certains cas, les Russes leur ont tiré dessus. Donc, nos militaires risquent leur vie. Et il y en a 3 qui ont été tués, il y en a 6 qui ont été blessés pendant la dernière évacuation. Donc, les militaires, nos militaires risquent leur vie.
Qu'accueil moralement, comment vont les défenseurs? Ils ont annoncé hier qu'ils n'allaient pas se rendre, qu'ils étaient décidés à aller jusqu'au bout.
Oui, effectivement. Parfois, nous sommes en contact avec les défenseurs d'Azovstal, mais c'est très, très difficile. C'est difficile parce qu'on sait qu'on ne peut rien faire pour eux. Tous les appels politiques du président Zelensky, qui est entré en contact avec tous les leaders du monde, que ce soit Macron, Erdogan, le secrétaire général des Nations Unies ou le pape de Rome, mais ça ne donne rien, aucun résultat. Il y a eu une évacuation des civils du territoire de la Syrie Azovstal, mais il n'y a aucune percée politique ni diplomatique. On ne sait pas comment aider nos militaires. Et il est possible de débloquer la ville du point de vue militaire. On peut débloquer la ville militairement. L'armée ukrainienne est capable de le faire, mais pour cela, il faut des armements lourds. Et ces armements, en provenance de l'Europe, manquent toujours. Nous manquons d'armes pour débloquer la Syrie Azovstal et débloquer la ville de Mariupol. Cela a été confirmé par des photos satellites. Il y a trois charniers vers l'ouest, une vingtaine de kilomètres, à 4-5 kilomètres vers le nord et à 5 kilomètres vers l'est. Ceci a été confirmé par les photos satellites. On voit nettement les charniers. Et le charnier à 5 km vers l'est devient de plus en plus grand. On y enterre de plus en plus de gens. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui sont enterrées. Il y en a qui ont été dégagées de sous les décombres. Les Russes obligent les habitants de Mariupol à dégager les décombres et enterrer ensuite les civils dans des charniers.
Vous avez de nouvelles preuves de crimes de guerre commis par les Russes?
Oui, ce sont des crimes de guerre, c'est du génocide. Ils veulent exterminer les Ukrainiens, les habitants de Mariupol, et ce, à une immense échelle. Nous estimons que le nombre de tués, les tués sont au nombre de 21 000. On n'a pas encore identifié toutes les personnes tuées. Et je pense qu'à la fin, on aura la même situation qu'à Boutcha ou à Irpine. Mais là, à une échelle beaucoup plus importante, parce que nous avons beaucoup plus d'habitants.
Pour vous, Mariupol reste une ville ukrainienne?
Nous ne pouvons que reconnaître qu'à l'heure actuelle, Mariupol est occupé pour 80 personnes par les troupes russo-fascistes. Nous comprenons fort bien dans quelles conditions vivent nos habitants, car une ville, c'est un territoire, mais c'est aussi des habitants. Mais nos habitants, pour la plupart, veulent que l'Ukraine revienne, que le pouvoir revienne à l'Ukraine. Nous, en tant que pouvoir municipal, nous attendons que nos militaires débloquent Mariupol. Merci à vous.
Voilà pour cet entretien du maire adjoint de Mariupol, interview réalisée donc hier après-midi depuis Paris par notre grand reporter Nicolas Toneff et que vous pouvez retrouver sur notre site internet dès à présent europe1.fr.
Vous restez avec nous dans un instant, la partition du groupe Imagination, à tout de suite.
On termine avec votre partition, Omblin, et vous nous ramenez à l'époque des vestes avec épaulettes, des pantalons à passe taille haute et des chouchous fluo dans les cheveux. Tout un programme, une photographie des années 80 avec le groupe Imagination.
Oui, la machine à voyager dans le temps va fonctionner à plein régime ce soir à l'Olympia, à Paris, quand vous verrez apparaître sur scène le chanteur Legion, membre actif du trio avec sa voix de falsetto.
Retour donc 40 ans en arrière en Angleterre, quand la résistance des paillettes s'organise contre les teintes obscures de la New Wave.
Oui, le disco n'a pas encore dit son dernier mot et opère sa mutation festive à grand renfort de basse, de synthé et de boîte à rythme. Legion est déjà un professionnel de la musique. En tant que chanteur et auteur, il participe à de nombreuses sessions d'enregistrement avec d'autres groupes, souvent en tant que choriste, grâce à cette voix exceptionnelle qui monte très haut. Il enregistre des démos et notamment un titre, Got to be Good. Alors ne cherchez pas le disque, la cassette envoyée aux États-Unis pour que des musiciens enregistrent les instruments par-dessus a été perdue à tout jamais.
Alors loin d'être démotivé par cette déconvenue, Legion se remet au travail.
Sa maison de disques, qui cherche à se faire pardonner après cette histoire de cassette égarée, lui présente un producteur, un certain Tony Swain. Il propose à Legion de travailler sur une mélodie brute qu'il vient de composer. Le chanteur raconte avoir écrit les paroles sur la table de la cuisine de sa mère à Londres. Sauf que ce titre baptisé Body Talk et l'album qui portera le même nom, Legion ne veut pas les enregistrer seul, mais plutôt au sein d'un groupe.
Le groupe Imagination prend forme quand Legion fait appel à un ami bassiste.
Voilà, Ashley Ingram, avec qui il a l'habitude de travailler. Et puis au hasard des rencontres, il fait la connaissance du batteur Errol Kennedy. Ce qui frappe Legion d'abord, c'est son look, un peu à la The Police, un veste en cuir et chemise colorée. Non seulement Imagination va créer sa propre identité visuelle avec des tenues audacieuses, dorées, déstructurées, avec des costumes comme des armures de gladiateurs. Mais Imagination va aussi imposer sa patte musicale, une partition disco-funk teintée de jazz et de soul.
Et les deux premiers albums connaissent d'immenses succès en Angleterre et aux États-Unis.
Et également dans toute l'Europe, grâce à un label français qui soutient le trio et fait sa promotion, le label Clémence Mélodie, créé par un certain Gérard Lenormand. Avec Just an Illusion en 1982, retrouvez ce soir le chanteur d'Imagination, Legion, en concert à l'Olympia à Paris.
Merci beaucoup, Omblin, vous restez avec nous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin,
6h26, bonne matinée sur Europe 1.
Et on vous retrouve demain à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.